Bonjour à vous toutes et vous tous. 23 décembre, on y est quasiment. Il me semble qu'il y a encore quelques mois, on se disait, dans, je ne sais pas, 153 jours, c'est Noël. Eh bien là, c'est Noël demain soir et évidemment après-demain, le 25. Alors oui, c'est Clotilde Sey qui vous parle et qui vous souhaite la plus cordiale des bienvenues à cette émission Le National qui, je vous le rappelle à chaque semaine, mais reprend des segments d'émissions que vous avez peut-être ratés ou que vous avez peut-être envie de réentendre. Alors on va commencer avec, tiens, c'est bon pour la santé, l'émission d'avant-hier. Vous savez que cette émission est animée pour vous par Marianne Paquette. Et là, une application qui a été créée par une infirmière praticienne qui est spécialisée en cardiologie. Et c'est donc elle qui a créé cette application qui s'appelle @cœur, quand même une application qui a remporté le Grand Prix du Coopératon 2016. Ce n'est pas rien. Alors vous vous dites, cette madame-là doit être une véritable geek. Eh bien, pas du tout. C'est vraiment une infirmière qui a eu une excellente idée. On réécoute de quoi il s'agit.
Stéphanie Béchard, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être là. Il faut dire que le CHUM, c'est juste à côté. Ça vous a fait une petite marche de santé sur l'heure du dîner.
Exactement, exactement.
Stéphanie Béchard, vous êtes infirmière praticienne spécialisée en cardiologie au CHUM, voilà, et instigatrice de cette application @cœur. Vous avez remporté, il y a de ça quelques semaines, le Grand Prix du Coopératon 2016. Félicitations. C'est un prix quand même qui est peut-être pas très connu du grand public, mais assez important, prestigieux. Ça vise à promouvoir l'innovation technologique en matière de santé. Ça représentait quoi pour vous de remporter ce prix-là, Stéphanie Béchard?
En fait, c'était une très grande distinction, puis nous en sommes très fiers. On a dû travailler pendant 4 semaines de soir, de nuit, les week-ends, pour arriver à développer cette application-là qui allait répondre à un besoin pour les patients insuffisants cardiaques.
Oui. @cœur, voilà, c'est l'objectif. Et je dis quand vous êtes l'instigatrice, c'est que c'est votre bébé, ça vient d'un constat que vous avez fait. Vous étiez dans votre salle d'attente, là, sur votre lieu de travail, vous regardez les patients et là, l'idée a germé en vous.
Effectivement, faut comprendre là, qu'au Québec, il y a environ 175 000 patients qui souffrent d'insuffisance cardiaque. Ce n'est pas une maladie qui touche peu de gens. Là. Oui. C'est quand même un volume, un bassin de nombreux
assez
de
important.
Important de patients. Et puis, bon, ça implique qu'on reçoit un diagnostic d'insuffisance cardiaque, de faire plusieurs modifications dans nos habitudes de vie. Puis, entre autres, on demande aux patients qui souffrent de cette maladie-là de devoir se peser tous les jours, de limiter la quantité de liquide qu'ils boivent à 1,5 litre par jour, de prendre leur pression quotidiennement. Et puis, actuellement, les patients, quand je les vois, puis je fais le suivi de ces patients-là, ils inscrivent ces données-là sur une feuille que je leur remets. Puis, je me suis dit, je peux pas croire qu'en 2015, on fait encore un suivi avec une feuille de papier. Puis dans la réalité, je suis tout le temps en train de demander aux patients, hey, « Où la feuille de papier? » J'ai oublié la feuille de papier. Puis je vois les patients dans la salle d'attente qui sont en train de lire la presse sur leur iPad ou leur tablette. Puis quand je leur donne leur prochain rendez-vous, ils l'inscrivent dans leur téléphone. Puis je me dis, moi, je leur remets une feuille de papier pour faire le suivi. Alors, je m'étais dit, je peux pas croire qu'il n'y a pas une façon en 2015 pour optimiser le suivi de ces patients-là. Mais moi, infirmière praticienne, j'ai pas les connaissances et l'expertise pour développer une application. La technologie, la part d'utiliser un téléphone intelligent, j'y connais rien de plus. Alors, quand j'ai vu passer cette compétition-là de Coopératon, je me suis dit, c'est la chance qui se présente.
De vous investir. Donc, justement, c'est intéressant qu'une infirmière praticienne spécialisée, qui n'est pas une geek, là, entre guillemets, décide de mettre sur pied une application. C'était quoi les premières étapes, Stéphanie Béchard, là, pour développer votre application @cœur?
Oui, bien, la première étape non négligeable était, à travers le Coopératon, de vendre mon idée pour que les gens qui font partie de la technologie aient envie de s'investir dans mon projet.
Ah, ouais. Uh-huh.
Alors, il a fallu que je trouve un designer, un développeur, un architecte informatique pour qu'on puisse avoir une équipe qui allait arriver à développer cette technologie-là pour les patients.
Oui. Comment fonctionne l'application?
Jusqu'à maintenant, on est encore au modèle, ce qu'on peut dire un prototype avancé. Là. Les patients ne l'utilisent pas formellement encore. Là. On leur remet l'application, puis on les observe de la façon qu'ils l'utilisent pour voir si on peut l'améliorer pour être certain que le jour où les patients vont officiellement rentrer chez eux avec l'application puis qu'on va les suivre de cette façon-là, que l'application fonctionne
bien. C'est la phase test.
Exactement. Alors, bien, en fait... On a fait ça relativement simple parce qu'il faut comprendre que c'est quand même un changement. Les patients écrivaient sur du papier, là, on leur demande de le faire sur leur téléphone. Donc, on voulait, peu importe le changement qu'on fait dans la vie, il y a toujours quand même une réticence au changement. Ouais. On est ébranlé par le changement.
Mais déjà aussi que lorsqu'on vit avec une insuffisance cardiaque, et vous l'avez bien mentionné, on a déjà... tout plein de changements
exactement.
À faire dans notre quotidien. Donc, il y a ça, et aussi l'apprentissage d'une nouvelle technologie, mais qui est peut-être un peu plus simple parce qu'on est toujours au bout de notre
exactement.
Téléphone, de notre tablette, peut-être plus maintenant que d'un crayon.
Oui, alors on a juste transféré les données que les gens écrivaient sur la feuille dans leur téléphone.
Alors, qu'est-ce qu'ils doivent inscrire?
Ils l'inscrivent dans l'application. Ils peuvent inscrire, ils inscrivent leur poids, la quantité de liquide qu'ils boivent dans une journée, puis la pression artérielle. Puis ces données-là sont envoyées directement à la clinique d'insuffisance cardiaque où je suis. Donc, ça me permet de voir en temps réel les données que le patient rentre. Puis si le patient entre des données qui sont considérées alarmantes pour lui, bien, à ce moment-là, on peut rentrer en communication ensemble. Entrer en communication ensemble, ce n'est pas nécessairement par le téléphone. On peut le faire par texto, comme on dit.
Ben oui.
Puis ça me permet même de le voir en temps réel parce qu'il y a un système de visioconférence où je peux voir le patient de sa tablette ou de son téléphone.
Ouais. Même si on n'est qu'à la phase test de hacker, Stéphanie Béchard, êtes-vous déjà... capable d'appréhender ou du moins de pouvoir constater tous les avantages que ça pourra avoir. Il y a ces suivis-là que l'on comprend beaucoup plus étroits, mais en matière de santé puis en matière de coûts aussi, est-ce
ouais.
que vous avez pu constater quelque chose?
Bien, l'hypothèse, parce qu'en fait, on va évaluer le projet hacker via un protocole de recherche, puis notre hypothèse, c'est que d'utiliser cette technologie-là va nous permettre de diminuer les hospitalisations parce qu'on va pouvoir intervenir plus précocement quand le patient va décompenser, puis on pense que le patient va être plus adhérent au suivi. Donc, l'objectif est de diminuer les hospitalisations. Si on diminue les hospitalisations, pour le patient, ça augmente sa qualité de vie. Puis pour le système de santé, ben on sauve des coûts, bien entendu.
Et vous ne vivrez plus, bon, à moyen long terme, là, on le comprend, avec « Ah, j'ai oublié ma feuille. Ah, telle journée, j'ai oublié de l'inscrire. Ah, ça, je suis pas sûre, je comprends pas trop ce que j'ai écrit. » Donc, évidemment, du point de vue de la santé, il y a de nombreux bénéfices. On parlait tout à l'heure, là, que les gens qui vivent avec de l'insuffisance cardiaque, c'est pas banal. C'est quand même, bon, moi, dans mes chiffres, là, plus de 600 000 personnes au Canada.
Exactement.
Hommes, femmes, à partir de quel âge? Est-ce qu'il y a un profil type, Stéphanie Béchard?
On sait qu'il y a plus d'hommes que de femmes qui sont insuffisants cardiaques. Puis je vous dirais que la moyenne d'âge dans ma clinique d'insuffisance cardiaque est autour de 70 ans.
Ah oui, quand même. Est-ce que cette clientèle, ben, j'imagine parce que l'idée vous est venue de cette façon-là, mais pour être un petit peu plus réticente à utiliser la technologie pour mesurer leur santé?
C'était une question que je devais répondre avant de faire, d'émettre cette idée-là, effectivement. Mais oui, les gens utilisent dans cette catégorie d'âge-là la technologie. Puis même, anecdote, on a une patiente de 89 ans.
Ah ouais.
Puis là, je m'étais dit, ben, je vais pas lui présenter l'application parce que c'est sûr qu'elle n'utilise pas ça. Puis finalement, je la questionne quand même. Puis elle me dit, ben oui, moi, j'ai une tablette. Puis je fais Skype avec mes enfants qui sont en Espagne. Puis je leur envoie des courriels. Puis je me dis, ben, c'est juste ça que ça prenait. Cette dame-là va pouvoir, même à 89 ans, utiliser
voilà.
l'application.
Et c'est formidable parce que tout ce contact avec la technologie garde aussi les personnes plus âgées dans ce bassin d'effervescence parce qu'on sait, bon, la technologie, en ce moment, tout le monde en mange, tout le monde en parle. C'est une façon aussi de continuer le discours avec les enfants et les petits-enfants aussi, de dire, regarde, moi aussi, je sais comment fonctionne. J'ai une application pour ma santé, pour la santé de mon cœur et tout ça. Bon, fast test, on le saisit bien. Qu'est-ce qui s'en vient pour... @cœur ou hacker là, dans les prochains mois? J'imagine qu'il y a le désir que l'application devienne là, plus établie, Stéphanie.
Oui, effectivement. Les prochaines étapes sont, il faut qu'on utilise un protocole de recherche pour évaluer l'efficacité d'hacker, qui va être une phase non négligeable pour avoir des bons indicateurs si on veut le développer à plus grande échelle par la suite. Alors, il faut s'assurer que les gens vont l'utiliser, il faut s'assurer que ça va avoir des bénéfices pour nos patients.
Oui. Et maintenant, en terminant, on va parler un petit peu de Coopératon 2016 quand même, qui est un concours que moi, je ne connaissais pas du tout. Est-ce que c'était la première édition?
Avant, ça, il y a eu le hackathon. Hackathon qui était en fait un marathon, mais dans une fin de semaine. Maintenant, le Coopératon, en fait, c'est imaginé et conçu par Hacking Hell et le Desjardins Lab. Puis comme le nom le dit, ça se veut un marathon de coopération. Ça mise sur la coopération interdisciplinaire pour stimuler les échanges et la création de solutions innovantes pour améliorer le bien-être collectif.
Ouais. Donc, vous, en tant qu'infirmière, praticienne spécialisée en cardiologie, vous avez été amenée à collaborer avec qui dans le cadre du Coopératon? Bon, on comprend qu'il y avait sûrement des développeurs web ou de logiciels là, qui ont travaillé avec vous. Vous n'êtes pas toute seule dans cette équipe-là?
Non, effectivement, Hacker n'aurait pas vu le jour, puis on n'aurait jamais pu gagner le prix si je n'avais pas eu les gens ils m'ont fait confiance et se sont dit « ce projet-là est gagnant ». Je pense qu'on devrait s'affilier avec eux. Donc, je pourrais peut-être prendre le temps de les
Bien
nommer.
Bien sûr, c'est
mais...
le temps.
Alors, on avait un développeur, un architecte informatique, un designer, un étudiant en recherche au doctorat. Donc, c'est des gens qui sont extrêmement dévoués, qui se sont dit, j'ai envie de mettre du temps pour amener l'innovation, pour améliorer le suivi des patients insuffisants cardiaques. Donc, j'aimerais souligner le travail de Younes, Kotara, Olivier, Karl et mes collègues aussi cliniciens, là, Nathalie Nadon et le docteur François Tourny.
Oui, voilà. Et c'est aussi, je pense, une très belle vitrine pour le CHUM. Ils doivent être assez contents de vous et que vous soyez dans l'équipe. En tout cas, vous partez pour les fêtes avec une belle réussite, Stéphanie Béchard. Bien sûr, salutations à toute votre équipe parce qu'on comprend bien que Hacker est né d'une très, très belle collaboration, puis on suivra de près l'évolution de cette application pour les gens qui vivent avec une insuffisance cardiaque. Merci, Stéphanie Béchamp.
Merci.
Accès libre maintenant. C'était le 20 décembre 2016. Accès libre, bien sûr, animé par Benoît Racette. Et c'était une table ronde à ce moment-là. Benoît avait invité deux personnes, soit Antoine Perrault du regroupement des aveugles et amblyopes du Québec et Audrey-Anne Trudel de la COFAN à faire un retour sur l'année 2016, donc un bilan. Et les questions qu'on se posait autour de cette table ronde, c'est y a-t-il eu des avancées et quels sont les espoirs pour les personnes qui vivent avec un handicap visuel et physique.
En ces temps froids d'austérité, c'est nécessaire de se réchauffer un peu avec des gains, des victoires qu'on a pu faire cette année. Et c'est ce cadeau de... Oui, j'ai eu la misère à le dire. On n'est pas habitué de parler cadeaux ici. Donc, ces cadeaux de fin d'année sont possibles grâce à des groupes qui militent, qui défendent, qui font entendre vos besoins. Avec nous, Antoine Perrault du RAC, le regroupement des aveugles et amblyopes du Québec.
Bonjour.
Bonjour. Et aussi Andréanne Trudel, de la Confédération des organismes de personnes handicapées du Québec.
Bonjour.
Merci à vous deux de nous accompagner en cette fin d'année pour peut-être faire un tour d'horizon sur ce qui s'est passé dans vos cours respectifs, on peut dire ça comme ça. Je commencerai avec Antoine Perrault en guise de petite introduction. Est-ce que vous diriez que cette année fut bonne ou pas en termes de gains pour les personnes aveugles?
On a fait beaucoup de revendications cette année. Certaines ont trouvé des échos.
Oui.
Je vous dirais qu'on n'a pas eu de gains global probant, mis à part peut-être le traité de Marrakech, qui a été un des grands gains qu'on a eu cette année. Mais il y a beaucoup de dossiers qui sont en cours de développement. Donc, on espère un 2017 avec des gains probants.
Bien, je suis content de vous l'entendre dire et avec enthousiasme, on va revenir un peu plus tard sur le traité de Marrakech pour les gens qui nous écoutent. Ça concerne notamment la disponibilité de l'information et des livres en version audio. On en parlera plus tard. Audrey-Anne Trudel, les personnes en situation de handicap vont mieux ou moins bien qu'en 2015, pardon?
Sur le terrain, dans la vie quotidienne, ça serait difficile à dire là, s'il y a eu des gains, mais je peux vous dire que... Au niveau politique, surtout au niveau international, fédéral, il y a des choses qui se passent. Donc, on peut envisager un avenir plus positif, mais reste à voir les répercussions que ça aura sur le terrain.
Ah, j'aime ça entendre votre sourire dans votre voix. Mais ce qu'on entend aussi quand vous nous parlez, c'est qu'on a beaucoup de gains théoriques, des ententes, des vœux, des souhaits, des consultations. c'est pas encore descendu sur le plancher des vaches.
Exactement. Souvent, c'est que le financement suit pas ou qu'il y a des problèmes dans la mécanique de l'application. Donc oui, beaucoup de vœux pieux, peu de résultats.
OK, mais on va travailler en 2017 là, pour faire sortir les résultats. Première nouvelle importante cette année, la langue des signes, que ce soit la LSQ, la langue des signes québécoise, ou l'ASL, l'American Sign Language, a été ou sera bientôt reconnue aux Nations Unies et peut-être même au Canada aussi.
Oui, bien en fait, c'est déjà reconnu aux Nations Unies. C'est reconnu dans la Convention internationale relative aux droits des personnes handicapées. C'est à l'article 30 qui reconnaît la langue et l'identité culturelle là, des personnes sourdes. Puis, le 1er décembre dernier, la ministre fédérale des personnes handicapées et du sport, Carla Quattro, a donné une conférence de presse pour annoncer que le Canada était en processus de ratification du protocole facultatif de la Convention. Mm-hmm. Puis, lors de cette conférence de presse, il y a des questions qui ont été posées par rapport aux consultations pour la loi fédérale et à savoir si elle allait avoir une certaine reconnaissance là, des langues des signes. Et elle a été affirmative par rapport à cette question.
Mais elle est souvent affirmative, la ministre Quattro, quand même.
Oui, mais j'ai suivi le dossier d'assez près et je vous dirais que c'est une des premières fois qu'elle s'est prononcée quant au contenu de la loi, la direction que ça allait prendre. Elle a toujours dit qu'elle voulait une loi forte, une loi globale. Mais là,
une
c'était
loi contraignante.
Oui, mais là, c'était vraiment clair. Elle a dit, on veut une loi qui va avoir des dents. Mm-hmm. Puis elle a parlé spécifiquement aussi des langues des signes, de la reconnaissance de la culture sourde. Là, on a entendu beaucoup langue officielle dans les médias et tout ça. C'est pas nécessairement les termes qu'elle a utilisés, mais elle a dit qu'il y aurait une reconnaissance formelle des langues des signes au Canada et de la culture.
Oui. Parce qu'en plus, on ne sait pas exactement le nombre de personnes qui utilisent cette langue-là, par exemple, pour la LSQ. Moi, j'ai vu des chiffres entre 900 et 50 000, des choses comme ça. Est-ce qu'on sait à peu près quel genre de nombre, quel nombre de personnes l'utilisent?
Bien, en fait, c'est ça. Ça varie selon les sources.
Oui.
Mais au Québec, je pense que le REQI, le regroupement pour l'inclusion sociale des personnes sourdes et malentendantes au Québec, là, parle d'environ 7500 personnes, si je me trompe pas.
OK. Donc, c'est peut-être pas une langue officielle, mais certainement une langue mieux reconnue. C'est intéressant, ça fait longtemps que les sources se battent pour ça. Et c'est beaucoup à cause, vous le dites, de la Convention relative aux droits des personnes handicapées qui va devenir une petite affaire plus contraignante là, si on adopte le protocole de suivi facultatif.
Oui.
Mais on va pas rentrer tout de suite là-dedans, c'est des grands enjeux internationaux et ça redescend jusqu'ici, mais c'est peut-être pour ça qu'on a ce gain-là.
Oui, c'est possible. Ça. Puis en fait, c'est que ça s'inscrit dans une mouvance internationale là, parce qu'il y a plus de 57 pays qui reconnaissent dans leurs lois, soit au niveau de la Constitution, des lois sur l'éducation ou diverses autres lois d'une quelconque faction que ce soit, la langue des signes de leur pays. Donc, puis c'est quelque chose qui augmente, là, je pense qu'en 2000...
Donc, on est un peu en retard?
Ben oui, c'est ça. Mais disons qu'on n'est pas, des avant-gardistes dans la matière.
Okay.
Mais on est content que ça se passe.
Donc, merci Audrey-Anne Trudel-Lacoffane. Antoine Perrault, l'accès à l'information, c'est déterminant pour les personnes en situation de handicap et surtout les personnes aveugles.
Oui.
Qu'est-ce qu'on aura à dire là-dessus pour cette année?
Si on parle en termes de gains, comme on disait tantôt, le traité de Marrakech, c'est un de nos grands gains. C'est des revendications que le RAC a fait depuis un temps déjà. Ce qu'il faut comprendre, c'est que le traité de Marrakech, ça permet en fait de rendre plus accessible, plus facilement du moins, des textes. C'est un traité international, donc on parle vraiment au niveau mondial. Mm-hmm. Des textes en format braille ou en format audio. Mm-hmm. Donc, techniquement, ça rendrait plus facile d'accès différentes formes de livres aux personnes qui ont besoin d'un format audio ou d'un format braille.
Mais pas seulement le livre.
Pas seulement le livre, mais nous, les revendications qu'on avait, c'est vraiment pour faciliter l'accès au livre.
OK, c'est d'abord le livre. Mais c'est sûr qu'il y a quand même plusieurs pays francophones à travers la planète qui en font de l'audio, du livre audio.
Oui.
Et donc, un des buts du traité, c'est que tout le monde se partage ça, mais l'Europe n'a pas encore signé. Hein? C'est ça qui se passe. Donc, le plus grand pourvoyeur, je pense, à la France, à la Belgique, qui en produisent beaucoup. On ne sait pas s'ils vont entrer dans la danse.
Puis c'est un des défis, dans le sens où, pour l'instant, le traité de Marrakech a été adopté. Le Canada était, si ma mémoire est bonne, le dernier pays requis pour que le traité rentre en vigueur.
Mm-hmm.
C'est une très bonne nouvelle. Maintenant, ce qui reste à voir, c'est comment est-ce que ça va se mettre sur le terrain. C'est quoi les gains réels qu'on va avoir? C'est ce qu'on est curieux de savoir. Puis 2017 va nous le dire.
OK. Bien, écoutez, vous pouvez peut-être apprécier avec moi, il y a eu plusieurs gains cette année qui ont été faits pour tout le monde aussi. J'aimerais souligner une guerre, plus ou moins, que la FADOC, la Fédération des centres de personnes âgées du Québec, et d'autres groupes, dont Execo, ont fait aux frais accessoires. Donc, c'était un genre de taxe, c'est un genre de taxe, puisqu'elle est toujours en vigueur, sur certains services de santé que Barrette avait autorisé officiellement l'an dernier. Ça devrait être aboli en janvier. Hein? C'est le fun de l'argent quand notre carte de crédit va être pleine. Et aussi, il y a plusieurs autres gains qui ont été faits au niveau de l'accessibilité commerciale, etc. On va y revenir de manière plus précise. J'ai hâte de vous entendre là-dessus. Après un peu de musique, il faut parler vin et spiritueux. Donc, j'ai envie de vous relancer sur notre société d'État, la SAQ, qui, après négociation, une requête à la Commission des droits de la personne, à pareille date l'an dernier, s'est engagée à rendre accessibles ses succursales. C'est un gain, notamment, du rapplic. Je pense qu'Audrey-Anne pourrait réagir là-dessus. Alors, qu'est-ce qu'on a à dire là-dessus aujourd'hui, là, où il est censé avoir plus de succursales accessibles?
Ben en fait, au niveau de ce qui se passe sur le terrain, je suis pas tout à fait au fait là.
Mais qu'est-ce qui s'est passé donc?
Ben en fait, c'est ça, c'est que le regroupement des activistes pour l'inclusion au Québec avait déposé une plainte à la CDPDJ comme quoi plusieurs succursales de la SAQ n'étaient pas accessibles. Et suite à, il y a eu une entente à l'amiable qui est survenue et la SAQ s'est engagée à rendre accessibles toutes ses succursales. Et particulièrement à rendre tous les terminaux de paiement accessibles d'ici 3 ans, puis à soumettre des rapports d'avancement à la CDPDJ à tous les 6 mois. Ça fait des liens aussi un peu avec un rapport que la Commission des droits avait fait par un exercice là, d'évaluation de l'accessibilité des commerces, un rapport qui était paru en 2013 qui soulevait que c'était souvent les mêmes obstacles là, qui était présente dans les commerces, puis pas juste des commerces comme la SAQ, mais également les pharmacies, les épiceries.
Bien, en fait, l'enquête concernait les bannières de pharmacies et d'épiceries.
Oui.
Puis ce qu'on disait à l'époque, c'est que c'est pas un bien comme les autres. Alors, la commission a plus ou moins sommé les entreprises de rendre accessibles leurs succursales. Mais là, c'est le fun parce que même si la boisson, c'est pas censé être aussi important pour la vie, quoique. il reste qu'on a trouvé une pogne, puis on a réussi à obliger la SAQ à rendre accessibles ses succursales.
Oui, bien en fait aussi, qu'est-ce qui est intéressant, c'est de remarquer que la plupart des obstacles ne sont pas reliés directement au bâti. C'est pas, souvent on nous sert l'argument, c'est trop cher, ça prend des grosses rénovations, puis finalement on se rend compte que c'est la porte, il n'y a pas d'ouvre-porte ou il y a des obstacles, les rangées sont trop étroites, ou il y a des présentoirs qui encombrent le chemin, ou les terminaux de paiement ne sont pas accessibles. Donc, c'est des changements qui sont relativement simples et peu coûteux et qui peuvent avoir une grosse différence là, sur l'accès. Donc, je pense que c'est... Et oui, comme tu disais, d'étendre cet enjeu-là à des biens qui ne sont pas considérés comme des besoins de base, ça rend visible le fait que, oui, les personnes qui ont des limitations, ils ont une vie comme tout le monde puis ils ont le droit d'avoir accès à tout ce qu'ils veulent, dans le fond.
Ben oui, voilà. Et donc, l'accessibilité commerciale devient un enjeu important. Rappelons aussi que le Rapplic, cette année, a réussi à développer une entente ou avoir une entente avec Shieldev. Oui, papa, là, rappelez-vous, les propriétaires des stores au bon marché qui possèdent environ des immeubles qui représentent 400 commerces sur Montréal. Donc, avec une entente qu'elle a eue avec eux, on pourra voir dans les prochaines années la mise en accessibilité de plusieurs commerces, notamment sur l'artère Masson.
Oui, puis je pense que ça montre des belles façons là, de collaborer ou d'approcher autrement nos revendications, de ne pas toujours séparer en deux camps, mais d'aller voir comment on peut travailler, dans le fond, avec les entrepreneurs, avec les commerçants, pour leur montrer que c'est avantageux pour eux de se rendre accessible et que c'est pas toujours aussi compliqué qu'on le croit.
Ben voilà, et donc très souvent, on se retourne vers le gouvernement pour lui demander peut-être que l'autre acteur qu'il faut sensibiliser à la mise en accessibilité, c'est l'industrie ou les entreprises. Écoutez, Ipsos, il y a quelques années, a dit que le Québec se distinguait en étant rempli de consommateurs de vin rouge et de minivan. Vous allez voir où je vais comme ça. On parle véhicule avec notre ami... de la RAC, du Regroupement des aveugles et ambliopes du Québec. Donc, les véhicules auraient vécu quelque chose comme une avancée pour les personnes aveugles, c'est tout ça?
En fait, les véhicules électriques et hybrides, nous, c'est une revendication qu'on porte depuis un temps déjà. On mm-hmm. souhaite qu'il y ait des bruiteurs, pas n'importe quel bruiteur, on souhaite qu'il y ait des normes.
Oui.
Il y a des modalités assez, assez précises qu'on souhaite qu'ils soient respectés, puis qui se basent beaucoup sur un travail qui a été fait aux États-Unis par le NHTSA, qui mm-hmm. est le groupe qui est responsable de produire une norme pour les véhicules électriques et hybrides. Nous, on fait des démarches auprès du gouvernement qui nous a mentionné qu'il attendait de voir ce qui se passait aux États-Unis. Et là, la norme finale est tombée le 14 novembre dernier.
Ah oui?
Elle n'est pas encore signée, dans le sens où il y a encore un délai d'une soixantaine de jours, mais au moins, on peut avoir un document solide, final, sur lequel se baser. C'est une norme qui était censée être finale il y a très longtemps, mais les lobbies automobiles, certains autres facteurs ont fait que ça a été repoussé, repoussé, repoussé. Et là, finalement, le document final est tombé.
Ah, oui.
Donc, c'est quelque chose qui va nous aider
gens, pourquoi un véhicule silencieux, c'est dangereux pour les personnes aveugles?
Un véhicule silencieux, je tiens à le préciser, n'est pas uniquement dangereux pour les personnes aveugles et les personnes amblyopes. C'est dangereux pour l'ensemble des piétons et des usagers de la route.
Mm-hmm.
Les recherches qui ont été faites par le NHTSA n'ont pas fait de distinction. On parle de pourcentage beaucoup plus élevé de frapper un piéton
mm-hmm.
ou un cycliste si le véhicule n'émet pas de son, parce que c'est une information complète.
Ouais.
Qui est enlevé. Et c'est sûr que là, si on prend la situation d'une personne aveugle ou d'une personne amblyope, c'est beaucoup d'informations qui manquent. C'est extrêmement dangereux. C'est vraiment quelque chose qui est un enjeu majeur pour nous. Et avec les plans québécois, en fait, qui visent l'électrification des transports, il y a un besoin urgent d'avoir une norme parce qu'on vise 100 000 électriques silencieux, en fait, qui se promènent sur les routes d'ici une date qui s'approche de mm-hmm. plus en plus, 2019. Et il faut qu'il y ait des normes qui soient faites.
Eh bien, on peut être environnementaliste tout en n'étant pas en danger. Merci de nous aider pour ça. Alors, on doit bientôt terminer ce segment. J'ai adoré qu'on fasse ça ensemble, mais y a-t-il un petit gain là, qu'on pourrait espérer en 2017? Est-ce quelque chose que vous attendez en deux mots?
Nous, on a rejoint le gouvernement concernant beaucoup, en fait, le ministère de la Santé et des Services sociaux, concernant l'inaccessibilité de plusieurs de leurs sites web
mm-hmm.
et de plusieurs campagnes qu'ils mènent. Là, on pense à la campagne sur la vaccination de la grippe qui a un visuel qui ne respecte pas le standard, qui a des sites web qui ne respectent pas le standard. Donc, on espère que le gouvernement fasse vraiment attention dans l'avenir pour leur campagne publique en termes d'accessibilité et d'inclusion.
Bien, ils ont comme devoir d'être une figure, d'être très responsable.
Tout à fait.
Bien sûr. Audrey-Anne Trudel?
Oui, bien, je seconde ce que mon collègue a dit là, au niveau de l'accessibilité du web, surtout que le gouvernement axe de plus en plus sur sa stratégie numérique. Là, donc, il mm-hmm. Faudrait s'assurer que ça inclut tout le monde. Puis, pour ma part, j'ai bien hâte de voir à quoi la future loi fédérale sur l'accessibilité va ressembler.
Ben
et
oui.
Si elle va réellement avoir des dents, comme la ministre l'a dit, et quels impacts ça aura au niveau des législations provinciales aussi. Est-ce que ça va emboîter le pas, là,
ben j'espère? Oui. Et donc, en 2017, on espère la loi, autant que vous, Audrey-Anne Trudel, de la COFAN, de la Confédération des organismes pour personnes handicapées. Merci beaucoup. Antoine Perrault, du Regroupement des aveugles et amblyopes du Québec. Merci.
Merci beaucoup.
À tout bientôt.
Bonjour ou rebonjour, Clotilde Say, toujours en votre compagnie. C'est la dernière émission Le National en cette fin d'année, en ce 23 décembre 2016. Alors, on poursuit avec cette fois-ci un segment de l'émission Portrait de famille du 19 décembre 2016, tel qu'il nous a été proposé par Marianne Paquette. L'arrivée d'un enfant, ça change toujours une vie, mais ça change d'autant plus une vie lorsque la maman vit avec la paralysie cérébrale. Et c'est ce qui est arrivé à Véronique Pagé. Alors, elle nous a proposé, le 19 décembre dernier, Marianne, de découvrir le portrait de famille de Véronique Pagé, cette maman de William, 5 ans, qui est aussi, cette maman-là, la directrice générale de Viomax. Et ne l'oublions pas, une maman qui vit avec la paralysie cérébrale.
Véronique Pagé, bonjour.
Bonjour, Marianne.
Merci d'être là.
C'est un plaisir d'être avec toi aujourd'hui.
Vous êtes habituée quand même. Vous avez été co-animatrice avec mon collègue Luc Fortin.
Et oui, quel plaisir ça avait été. Je suis contente d'être de retour avec Canal M.
Aujourd'hui, on vous reçoit, Véronique, en tant que maman de William, 5
oui.
ans. Bon, on rappelle aussi que vous êtes directrice générale de Viomax. On pourrait revenir à ce centre de conditionnement physique adapté pour des personnes qui vivent en situation de handicap. Important de le dire, je pense, d'entrée de jeu, vous vivez avec la paralysie cérébrale.
Oui.
Et c'est intéressant parce que habituellement, Véronique, on reçoit des parents d'enfants qui vivent avec différentes limitations. Là, on a l'autre côté de la médaille, un autre regard avec vous aujourd'hui. On débute avec cette photo, ce portrait de famille que vous nous avez amené aujourd'hui, qui est en ce moment diffusé sur nos différents réseaux, Twitter, Facebook, notre site web également. Une photo touchante qui n'est pas nécessairement récente, mais que vous et votre conjoint Martin, vous aimez beaucoup.
Oui, effectivement. William avait 2 mois. Et c'était un portrait. On était encore là, dans toute la nouveauté de ce que ça veut dire, l'arrivée de William. C'était un moment de détente avec une amie qui a pris la photo qui s'appelle Kim Côté, qui est photographe, puis qui m'a accueillie chez elle gratuitement, généreusement. On a comme eu un moment de grâce pour prendre cette photo-là parce que c'était pris très rapidement. Là. William qui était tout assoupi sur mon épaule. Les trois très collés et elle est encore affichée chez moi parce que ça me rappelle ce bon moment avec l'arrivée de William.
C'est un moment vraiment empreint de tendresse. Je vous écoute, Véronique, et j'ai envie de faire du pouce sur ce que vous me disiez tout à l'heure avant que l'on débute l'émission, à savoir que lors de la préparation de cette émission-là, vous vous êtes replongée dans beaucoup d'émotions.
Oui.
Pourquoi? Est-ce que l'arrivée de cet enfant-là, ça a déclenché quoi?
Et c'était toute une prise de conscience et de préparation personnelle. C'était tout un accomplissement aussi, parce que vivre avec ma limitation, ça voulait dire que si un jour j'atteignais l'autonomie nécessaire pour accueillir un enfant, pour moi, j'avais atteint l'ultime. Et l'ultime est arrivé.
Ouais.
Et ça a toujours été pour ma vie a changé ce jour-là, le test de grossesse positif. Je dis toujours que c'était une nouvelle vie. Et de voir à quel point cet accomplissement-là ça a changé tellement de choses et me replonger dans toutes ces émotions, dans toutes ces étapes-là, parce qu'il faut travailler beaucoup aussi sur soi. Faut vraiment... Ce fut, en fait, un moment de plein d'émotions mélangées. Là.
Ouais.
Puis ça reste un bonheur, mais de me replonger dans toutes ces étapes-là de vie, c'est encore très émotif souvent pour moi.
Ouais. Portrait de famille, c'est une émission qui est bâtie avec les interpellations des parents. Vos thèmes, Véronique, sont beaucoup liés à la grossesse, à la parentalité, oui, mais grossesse, accouchement, ce qui était en début de vie de William, peut-être parce que ce moment-là a été l'un des plus beaux de votre vie.
Le plus beau. Je dis toujours que toute mon année où j'étais enceinte, c'est la plus belle année de ma vie. Et l'année où j'étais en congé de maternité, où j'ai pu vivre à 100% juste ça, là, sans prendre tout d'un coup la routine, le travail qui reprend, tout ce que ça veut dire de s'adapter, mais de pouvoir commencer par s'adapter un à l'autre.
Ouais.
Toute cette année-là, je pense pas que je vais revivre quelque chose de plus beau dans ma vie.
On pourrait penser que lorsqu'on vit avec un handicap, dans votre cas, c'est la paralysie cérébrale, on ne peut pas être parent, on ne peut pas être maman,
absolument,
avoir une grossesse, porter un enfant. Est-ce que vous avez été confrontée, c'est-à-dire par vous-même, à ces craintes-là ou d'autres personnes vous ont fait sentir ça?
Oui, en fait, les craintes de mon côté, j'en avais pas. J'avais des questionnements, j'avais des défis, mais pour moi, ce n'était pas des craintes. C'était des défis supplémentaires et des grosses montagnes à relever. Par contre, oui, on sent de l'extérieur qu'il y a des craintes. On sent qu'il y a des questionnements qui viennent. On sent qu'il y a des inquiétudes. Mais moi, j'étais toujours celle, je pense, qui rassurait, qui disait « Mais je suis tellement consciente de ce que je fais que... » Vous n'avez pas à vous inquiéter.
Oui.
C'est ça.
Oui. Et c'était un désir de vie, on le comprend, un désir personnel, un désir de couple aussi. Ça faisait longtemps que vous espériez cette grossesse-là.
Oui, absolument. Puis pour moi, c'est important que ça soit un projet de vie et de couple parce que je ne voulais pas un enfant à tout prix, je voulais une famille.
Oui.
Et quand on s'est senti prêt, c'était quand même long. Là. J'ai eu William... quand j'ai accouché, j'ai eu 35 ans là, un mois après. Là. Donc, ouais. Ce fut l'appel de c'était le temps, il fallait y penser. Et oui, c'était un long cheminement pour être sûre que moi, en tant que maman, je pouvais me réaliser au complet dans tout ce que ça voulait dire en termes d'adaptation, dans le couple, qu'est-ce que ça veut dire au niveau des choix, au niveau des décisions à prendre, au niveau de notre quotidien. Oui. Mais on était rendu là.
Oui. La grossesse s'est passée de façon merveilleuse. Pour l'accouchement, ça a été autre chose.
Très difficile. J'ai fini par accoucher d'urgence par césarienne. Et quand ça arrive, ça se bouscule très rapidement, là. C'était tout d'un coup, le cœur de William n'allait pas bien et c'était très difficile comme accouchement.
Oui, allez-y. Vous pouvez boire un petit peu d'eau, en fait.
Merci.
C'est le cœur de William qui n'allait pas bien à ce moment-là.
Exact.
Oui.
Et là, c'est assez... ça se bouscule parce que là... on finit par faire... C'était une césarienne qui était sous anesthésie générale, ce qui fait que j'ai pas vu William naître. J'avais pas mon conjoint à côté de moi.
Ouais.
Tout ce que tu as prévu arrive pas.
Ouais.
Ce moment-là, tu ne le vis pas. Quand je me suis réveillée, William était encore en incubateur. J'ai pas pu le prendre avant plusieurs heures parce que son cœur, il devait être... on devait être certain qu'il était stabilisé. Et ce fut très difficile à partir de là. Donc, l'accouchement, c'est sûr que c'est plein de belles émotions. On s'éveille, on a hâte de voir notre enfant, on est content de le voir, mais là, ça se bouscule. C'est plus juste du bonheur, c'est aussi qu'est-ce qui vient de m'arriver. Et quand on a accouché, on sait à quel point, justement, c'est un rush d'émotions, là. Mais j'ai pleuré très longtemps après avoir accouché. En fait, je n'étais pas capable de parler de mon accouchement.
Ouais.
Dès que j'arrivais, j'essayais d'en parler, je n'étais pas capable.
Ouais. Il y a une femme qui vous a aidé, une femme que vous ne connaissez pas, hein, qui est une chercheure en périnatalité, que je connais bien, que j'ai cette chance-là. Elle vous a aidé parce qu'elle a mis sur pied cette technique qui s'appelle la méthode Bonaparte.
Oui.
Vous aviez été mis au courant de ces livres et de cette méthode. De quelle façon?
Et très tard dans la grossesse, moi, j'ai accouché à Sainte-Justine. J'ai consulté des spécialistes pour voir comment ça pouvait se passer, l'accouchement. Et on m'a annoncé, Véronique, tu sais, pour avoir un épidural, ça serait très compliqué. Tu sais, peut-être qu'on devrait envisager une autre technique. Est-ce que tu te sens prête à ce niveau-là? Puis moi, je souhaitais le plus possible accoucher naturellement. Et là, on m'a parlé de Bonaparte. On m'a présenté cette technique. J'ai rencontré une infirmière qui était une personne spécialisée un peu, là, qui a reçu, si je ne me trompe pas, la formation, qui m'a rencontrée pour nous l'enseigner à moi et à Martin. Et on a choisi d'utiliser cette technique-là. Et je l'ai trouvée formidable, cette femme-là, quand je l'ai découverte, quand j'ai voulu apprendre. Elle m'a accompagnée, en fait. Et ça me touche vraiment beaucoup qu'elle soit au téléphone.
On lui parle à l'instant. Deuxième partie de cette émission Portrait de famille, toujours en compagnie de Véronique Pagé. Je vous annonce qui nous attend pour cette deuxième partie. Nadia Gerges, on lui parle tout à l'heure. Elle est propriétaire du Petit Gym, un lieu qui a comme mission de donner envie de bouger et d'être actif aux enfants. Je pense que ça saura toucher Véronique Pagé. Également, Cathy Sanson, ergothérapeute, sera là pour nous parler de la clinique Parents Plus, qui est une ressource essentielle pour des parents qui vivent en situation de handicap. Mais avant, on poursuit cette discussion avec Véronique. Je parlais de Nadia Gerges, du Petit Gym.
Oui.
Vous touchez parce que vous êtes directrice générale de Viomax. Il faut le dire, Viomax a aussi un Petit Gym. Il y a, j'imagine, chez vous, Véronique, l'envie de transmettre ce désir de bouger, des saines habitudes de
vie. Bien sûr, de bouger malgré le fait qu'on a une limitation, malgré le fait qu'on a un handicap, de savoir que c'est possible de le faire et que on en a besoin, comme tout le monde, pour la santé, pour le bien-être général. Donc, c'est la mission de Viomax, de rendre accessible l'activité physique. Fait que oui, ça fait un beau lien avec moi.
Oui, on pourra en parler tantôt avec Nadia. Aussi possible d'avoir un enfant en vivant avec un handicap. Vous en êtes la preuve. Véronique, qu'est-ce que vous auriez envie de dire à des mamans qui nous écoutent et qui pensent peut-être avoir un enfant ou en ont des inquiétudes sur cette possibilité et cette accessibilité à la maternité?
Mais moi, je leur dirais de vraiment s'entourer. C'est la première chose très importante, de déjà voir un petit peu, entrevoir c'est quoi qu'on pense que nos besoins sont où, qu'est-ce que je vais avoir besoin d'aller chercher comme outil, parce qu'il y en a. Puis c'est sûr que l'entourage devient très important. Pour moi, c'était déterminant, c'était important, c'est sûr. Mais de vraiment pas rester avec... Des difficultés parce que des fois, on ne sait pas qu'elles sont là, mais ça change toute une vie d'avoir accès à ça.
Ouais.
Donc, c'est un beau rêve qu'on peut difficilement réaliser seul, je vous dirais.
Et aussi, l'une des difficultés qui est souvent rencontrée, ça a été votre cas, Véronique, c'est l'environnement. L'environnement qui n'est pas adapté. Et ça a commencé dès votre présence à l'hôpital, quand William avait quelques heures seulement.
Oui, d'être à côté de William dans le petit lit qui est beaucoup trop haut, que je ne peux pas atteindre. Avec la césarienne en plus, là, je ne pouvais pas bouger. De l'entendre pleurer, de ne pas pouvoir le prendre, de ne pas pouvoir fonctionner avec mon bébé, m'en occuper seule, c'est impossible.
Ouais.
Je devais être toujours accompagnée. Ça, c'est un moment très difficile pour une maman là, qui vient d'accoucher. Chez moi, c'était possible parce qu'il y avait eu des évaluations, on avait pris toutes sortes de trucs pour que je puisse être seule avec William, pas toujours accompagnée de Martin ou d'un proche, mais que je puisse fonctionner à 100% sans attendre de l'aide, c'est tellement important. Puis à l'hôpital, c'était pas possible. Et ailleurs, la maison, ça devient aussi difficile.
Ouais. Vous avez été confrontée à quelque part à cette incompréhension du personnel soignant à l'hôpital.
Énormément. Il n'y avait pas, je vous dirais, d'ouverture à se dire « cette maman-là a des besoins différents ». On doit lui donner son bébé, on doit peut-être répondre un peu plus vite parce que justement, elle ne pourra pas l'atteindre. En fait, il n'y avait pas de réception. C'est assez étonnant. Là. Moi, ça m'a vraiment étonnée parce que, puis, tu sais, je dis pas que l'hôpital, c'est une très bonne hôpital. Je vais pas jeter les pierres, mais je pense qu'ils n'ont pas les moyens de pouvoir répondre à des besoins particuliers.
Oui, mais sans jeter les pierres, c'est intéressant de se demander par où elle passe, cette sensibilisation-là. Qui peut faire la démarche de sensibilisation? Et en même temps, c'est par des mères en situation de handicap qui vivent cette période-là de juste pouvoir dire, écoutez, mes besoins sont différents, j'ai besoin de ça pour m'occuper de mon enfant.
Je pense que de le savoir avant d'accoucher, c'est important. Moi, je ne savais pas qu'il fallait que je pense à ça.
Ouais.
Et je n'avais pas pensé du tout à l'aspect hôpital. Selon moi... les gens qui peuvent nous accompagner, je sais qu'on va parler à parents plus bientôt, mais je pense qu'ils peuvent aider aussi les mamans à ce niveau-là. Parce que l'accompagnement commence avec la grossesse, puis de pouvoir se rendre jusqu'à l'hôpital pour pouvoir commencer au jour 1 d'être autonome, ça change une grosse partie de l'adaptation qui est déjà très difficile dans les premiers jours de vie de ton bébé.
Ouais. Oui, on va en parler de parents plus, et bien sûr, tout à l'heure avec Mme Sanson. Ça, c'est de l'aide que l'on a à domicile, dans notre maison. Quand on sort, Véronique, avec notre petit, chez nos parents, notre sœur, notre beau-frère, ces accompagnements-là, ces outils d'adaptation, ils ne sont pas présents.
Non, c'est ça, pas toujours. Hein. On en a un petit peu dans... Par exemple, je pouvais transporter mon parc. Bon, mais ça, c'est génial. Mais j'arrive dans une maison où il y a des escaliers où c'est pas du tout adapté pour moi, où je vois mon enfant partir devant moi et je peux pas le suivre. Quand on sort du milieu qui est accessible et adapté, on se sent tout d'un coup limité. Et c'est là qu'on sait qu'on a une limitation puis qu'on a un handicap et ça nous confronte.
Ouais.
Personnellement, moi, ça, j'ai trouvé ça excessivement difficile. sûrement qu'il y a des gens avec un handicap qui l'ont peut-être vécu autrement, mais moi, en sortant de chez moi, j'étais confrontée à mon handicap.
Oui. William, il a 5 ans. Il marche, bien sûr. Il est très actif. Il ne pose pas encore de questions nécessairement sur votre handicap. Ça va probablement venir. Est-ce que vous appréhendez ça?
Bien, en fait, je suis très à l'aise de lui en parler. Là. J'appréhende pas comment je vais lui expliquer ou comment il va comprendre les choses. Parce que c'est tellement naturel pour lui que ça va juste aller de soi. Mais ce que j'appréhende, c'est de comment ça va venir de l'extérieur. Ce que je pense qui risque d'arriver, c'est peut-être avec le regard des amis qui vont tout d'un coup arriver chez une maman qui ne ressemble pas à la leur, puis qui vont peut-être dire à William, mais mon Dieu, qu'est-ce qu'elle a, ta mère? Et là, je sais pas comment il va répondre, mais c'est un peu ça. Hein, c'est un peu ça qui vient un petit peu donner un petit pincement au cœur parce qu'il me voit tellement pas différente que j'aimerais que la différence ne soit pas soulignée par les autres.
Ouais. Parfois, il pose des questions quand même. Pourquoi, maman, tu vas pas vite?
Oui, oui, oui. Il sait très bien que je peux pas le suivre à la même vitesse. Ça, il a vraiment compris. Et des fois, il va me dire, bon, maman, là, je sais, toi, ça va être long avec tes béquilles. Mais c'est vraiment, vraiment touchant. Il est vraiment drôle.
Avez-vous l'impression, Véronique, parce qu'on vous entend rire depuis tout à l'heure, c'est tellement agréable, que votre humour, c'est un outil formidable pour faciliter le quotidien?
Ah, tout à fait. Moi, je pense que ça fait partie de mes forces. J'ai toujours ri de moi-même. J'ai toujours ri de ce qu'on vit. OK, oui, on va se dire, là, il y a des fois où j'ai trouvé ça moins drôle. Mais dans le quotidien, je suis quelqu'un qui aime regarder ça de l'extérieur en trouvant ça un peu drôle, effectivement.
Ouais.
Et je pense que ça m'a aidée, que ça a aidé William, que ça fait que ma famille... on vit ça très légèrement.
Ouais.
Mon conjoint, des fois, me disait quand j'étais enceinte puis qu'on marchait un à côté de l'autre, il y avait beaucoup, beaucoup de regards. Il me disait, Véronique, je pense que c'est moi qui regarde plus que toi. Ils comprennent pas, tu sais. Puis, tu sais, fait qu'on trouve ça drôle très souvent.
c'est un cadeau à donner à William, cet humour-là, cette façon de regarder le verre à moitié plein et non pas à moitié vide. Est-ce que ce sera une force, j'imagine que vous le souhaitez, d'avoir une mère différente pour lui de tout ce qui peut favoriser son ouverture après face à la vie et à la société et à la différence?
Bien, moi, je pense que c'est déjà là. William a je le vois pas comme un enfant différent parce qu'une mère qui a un handicap, mais par contre, il y a une ouverture effectivement plus grande. Déjà, quand il voit des gens qui ont qui marchent différemment ou qui sont en fauteuil roulant, il va pas se retourner pour les regarder. Il va dire, regarde, maman, c'est comme toi. Il y a vraiment une ouverture sur les gens. Et ce que ça lui donne, je crois, c'est plus de sensibilité et plus une certaine intelligence émotionnelle, c'est-à-dire qu'il est très, très, très attentif aux autres.
Ouais.
Donc, j'ose croire que, oui, ça va influencer un peu sa personnalité positivement, oui.
On va parler à une autre organisation qui a à cœur cette ouverture-là et surtout l'autonomie des parents en situation de handicap, la clinique Parents Plus du Centre Lucie Bruno.
Voilà, c'est pour toutes ces raisons que ces émissions présentées et animées par Marianne, entre autres, sont extrêmement intéressantes à découvrir, à écouter et voire à réécouter comme on le fait grâce au National. Les paractualités, vous connaissez peut-être maintenant très bien cette émission d'actualité qui se consacre au milieu du handicap et que j'anime tous les jours du lundi au jeudi de 11h30 à midi. Eh bien, il y a eu quelques sujets qu'il nous semblait intéressant de vous faire réentendre. D'abord, le protocole canadien pour traiter la maladie de Lyme ou de Lyme est inadéquat. C'est ce que soutient un réalisateur de la Rive Sud. Vous entendrez aussi un papier qui concerne Rio et le Comité international paralympique qui se plaint à Rio parce qu'on lui doit beaucoup d'argent. Et puis, en Ontario, pas de remboursement santé pour un adolescent qui allait devenir aveugle. Une histoire qui se finit bien, heureusement, parce que c'est Noël, mais qui a failli très mal tourner. Par actualité nationale maintenant, le programme d'assurance santé de l'Ontario, l'OHIP, O-H-I-P, a refusé de payer pour une opération qui devait sauver le jeune Aidan Wellsman de la cécité, une intervention qui est remboursée dans d'autres provinces. Le jeune homme souffre de kératocone, qui est une anomalie dégénérative qui touche la cornée. Il s'est fait dire par les médecins qu'il perdrait la vue s'il ne traitait pas rapidement la maladie. Sa maman, Flora, de dire « j'étais terrifiée, en pleurs, paniquée, tout ce que j'entendais, c'est que mon fils allait devenir aveugle ». Les ophtalmologues ont expliqué à Aidan Wellsman et à sa famille que deux chirurgies pourraient prévenir la cécité. La réticulation du collagène cornéen, ça c'est pour renforcer la cornée affaiblie par la maladie, et l'installation d'arceaux de plastique appelés « intac ». Le père de l'adolescent, Thomas Wellsman, a été stupéfait d'apprendre que la province ne paierait pas pour les opérations. Pour bien des gens, ce serait hors de prix, constate-t-il. Il s'agit de 10 000 $ à débourser pour sauver la vue d'une personne. Si elle la perd, le gouvernement va devoir débourser bien plus en frais de prestation d'invalidité, de dire encore la maman d'Aidan, Flora Wellsman. Aidan, qui a finalement été soigné à Toronto la semaine dernière, notamment grâce à une campagne de financement participatif en ligne GoFundMe, les parents de l'adolescent ont écrit à la première ministre Kathleen Wynne pour lui demander de changer la politique de la province. Le ministère de la Santé affirme qu'il attend les résultats de recherche sur cette procédure avant de décider si l'assurance maladie la couvrira dans l'avenir. L'opération chirurgicale est notamment remboursée au Québec et en Colombie-Britannique. C'est un papier que j'ai trouvé pour vous d'après les informations de Mike Crawley. Difficile de se faire soigner pour les Canadiens selon un documentaire. Un réalisateur de Mont-Saint-Hilaire soutient que le protocole canadien pour traiter la maladie de Lyme, que certains appellent de Lyme, permettez de dire de Lyme si ça ne vous dérange pas, donc ce protocole serait inadéquat. C'est la conclusion du documentaire, qui s'appelle d'ailleurs Lyme, quand la maladie nous mord, qui sera diffusé à Canal Vie, dans lequel le cinéaste suit l'histoire de 4 personnes atteintes de la maladie qui ont dû se battre pour être soignées. La Montérégie est l'une des régions les plus touchées par la présence de tiques porteuses de cette maladie. Charles Domingue a travaillé pendant un an à ce documentaire. Le réalisateur y présente les histoires touchantes de Sabrina, Rachel, David et Marc. Certains, comme David, un agriculteur vivant avec la maladie depuis 17 ans, ont frôlé la mort. D'autres, comme Sabrina et Rachel, ont reçu de nombreux faux diagnostics. Rachel, d'ailleurs, croyait vivre avec la sclérose en plaques depuis de nombreuses années lorsqu'elle a reçu le diagnostic. Celle qui pensait au suicide et se déplaçait avec une canne a aujourd'hui recommencé à vivre. Et Marc a, pour sa part, dû insister pour passer un test sanguin. 4 personnes avec des profils fort différents, mais qui ont toutes dû faire face à une résistance du côté médical, selon leur témoignage. Une histoire qui n'a malheureusement rien d'exceptionnel, a constaté le réalisateur dans le cadre d'une conférence sur la maladie de Lyme à Ottawa. Quand je suis allée à la conférence, j'avais mes 4 sujets, mais là, tu vois 1000 personnes de Terre-Neuve jusqu'à Vancouver, qui ont toutes la même histoire. Quand le médecin leur a dit que c'est dans leur tête, ils vont en voir d'autres, des collections de spécialistes qui leur disent qu'ils ne trouvent rien, que les tests sont négatifs. Maintenant, la maladie de Lyme est reconnue, mais si tu l'attrapes, bonne chance pour te faire soigner, de dire ce réalisateur Charles Domingue, dont le documentaire Lyme, quand la maladie nous mord, sera diffusé sur les ondes de Canal Vie le 21 décembre à 20h. D'autres diffusions sont aussi prévues les 24, 25, 26 et 27 décembre. Rio doit beaucoup d'argent au Comité international paralympique. Le Comité international paralympique, le CIP, réclame plus de 4 millions de dollars canadiens aux organisateurs des Jeux de Rio. C'est ce qu'a révélé la BBC mardi. Le CIP a demandé au maire de la ville, Eduardo Paes, de l'aider à recouvrer cette somme. Le porte-parole, Craig Pence, a indiqué à la Société d'État britannique que le CIP était extrêmement déçu que les organisateurs n'aient pas honoré le dernier versement prévu pour les frais de transport de certaines délégations après avoir tardé à respecter la première échéance. Le CIP a versé 4,1 millions de dollars aux délégations de petits pays pour couvrir des prêts souscrits pour leur permettre de participer aux Jeux paralympiques dans les meilleures conditions. Selon le CIP, les organisateurs auraient dû payer leurs dettes à la fin du mois de novembre au plus tard. Ces derniers comptent maintenant sur l'intervention d'Eduardo Paes, car leurs comptes ont été gelés. Le montant destiné aux Jeux paralympiques a été utilisé pour régler des problèmes de dernière minute liés aux Jeux olympiques. Alors voilà quelques sujets que vous aviez peut-être pu entendre déjà si vous êtes des fidèles de l'émission Les Paractualités que j'anime pour vous tous les jours de 11h30 à midi, tous les jours du lundi au jeudi en fait. Alors c'est la fin, c'est la fin de cette émission Le National pour l'année 2016. Je voudrais remercier très fort tous mes camarades qui travaillent conjointement avec moi pour la rendre possible. Je pense à Jean-Sébastien Laliberté, je pense à Martin Forgue et à Mathieu Tessier. Je m'appelle Clotilde Seille, je vous souhaite de passer de très joyeuses fêtes. À bientôt.